Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 41, Daf Mem Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Ou bien, si la veille de Tisha B'Av, donc le 8 Av qui tombe un Shabbat, et le jeûne débute le lendemain, Ochel Veshote Kol Toko, il peut manger autant qu'il veut pendant le Shabbat, ou Me'ale Al Shulchano Afilu Kisudav Shlomo Beshato, il peut faire monter à table même un repas tel que celui de Shlomo Ameler lorsqu'il était roi. Alors que nous savons que la veille de Tisha B'Av, il est interdit de manger de la viande ou de boire du vin, il est interdit aussi de manger deux plats cuisinés. Chal lihiot Tisha B'Av ve'erev Shabbat, si Tisha B'Av tombe un vendredi, c'était possible lorsque c'était le tribunal suprême qui fixait le Rosh Chodesh en fonction d'un témoignage de témoins. Alors juste avant Shabbat, Mevi Inlo Kebetsa, on lui amène de la nourriture d'un volume d'un œuf, Veochel, et il en mangera, Kedeshelo Ikanes le Shabbat Kshehumeune, afin de ne pas rentrer dans Shabbat, donc afin qu'il n'accepte pas le Shabbat, alors qu'il souffre parce qu'il est affamé. Tanya, il est enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda, Pamachat Hainu Yoshvim Mifne Rabbi Akiva, une fois nous étions assis devant Rabbi Akiva, Vetisha Be'av Shechal Yod Be'erev Shabbataya, et c'était un Tisha Be'av qui tombait un vendredi, et juste avant le Shabbat, Vehebiulo Betsa Megulgelet, on lui amenait un œuf à moitié cuit, Vegam'a Belo Melach, et il l'a gobé sans sel. Velo Shehayata Evla, et ce n'est pas parce qu'il voulait en manger, et là, le Harot le Talmidim Halacha, mais plutôt il a agi ainsi pour montrer à ses élèves la Halacha. Rabbi aussi Omer, Mitane ou Mashlim, lorsqu'un jeûne tombe un vendredi, il faut jeûner et le compléter, donc jusqu'à la tombée de la nuit. Amar Lahen, Rabbi aussi a dit aux sages de sa génération, Yatem Modimli, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, Betisha Be'av, Shechal Yod, Bechal Be'Shabbat, lorsque le Tisha Be'av tombe un dimanche, chez Mafsik Mibodium, qu'il a l'obligation d'arrêter de manger tant qu'il est encore jour, c'est-à-dire avant la fin du Shabbat, Amroulo, il lui a répondu, Aval, oui, effectivement, c'est vrai. Lorsque Tisha B'Av tombe un dimanche, il faut arrêter de manger pendant le Shabbat, pendant qu'il est encore jour. Amar Lahem, alors Rabbi aussi leur a demandé, Malili Kanesba Kshehumoune, quelle différence y a-t-il entre le fait de rentrer dans Shabbat, donc d'accepter le Shabbat, alors qu'il souffre parce qu'il est affamé, Malila Tset Mimena Kshehumoune, et le fait de sortir de Shabbat lorsqu'il est affamé. Par conséquent, de la même manière que lorsque Tisha B'Av tombe à dimanche, la loi du jeûne est respectée au détriment du Shabbat, lorsque ce jeûne tombe un vendredi, il devra être respecté même au détriment du Shabbat. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, Im amarta latzet mimena, si tu parles du fait de sortir de Shabbat alors qu'il est affamé, shehare achal veshata kolayom kulo, alors qu'il a mangé et bu toute la journée, on ne peut pas dire donc qu'il souffre pendant le Shabbat parce qu'il arrête de manger. Tomar likanesba kshehumoune, pourras-tu dire la même chose en ce qui concerne le fait de rentrer dans Shabbat, donc d'accepter le Shabbat, alors qu'il souffre parce qu'il a faim, shelo achal veshata kolayom kulo, parce qu'il n'a pas mangé ni bu toute la journée. Autrement dit, le fait d'arrêter de manger à la fin du Shabbat ne porte pas atteinte à l'honneur du Shabbat, mais le fait de rentrer dans Shabbat, donc d'accepter le Shabbat, alors qu'il est affamé, porte atteinte à l'honneur du Shabbat. Damaroula, halakha que Rabbi aussi, la halakha est comme Rabbi aussi. Donc finalement, nous pouvons conclure que lorsqu'il y a un jeûne le vendredi, il faut le compléter, donc jusqu'à la tombée de la nuit. La Gemara demande, ou mi'avdinan que Rabbi aussi, est-ce qu'on suit l'opinion de Rabbi aussi? Veraminhi, on a opposé à cela une Mishnah dans Masechet Ta'anit, Daftet Vavamudbet. La Mishnah dit, en gozrin Ta'anit ala tzibur, on ne décrète pas un jeûne public Beroshe Chodashim Bechanouka ou Bepurim, ni à Rosh Chodesh, ni pendant Chanouka, ni à Purim, mais s'ils ont commencé auparavant une série de jeûnes publics, et au milieu de cette série il arrive qu'il y a Rosh Chodesh, Chanouka ou Purim, en mafsikin, on n'arrête pas la série de jeûnes, et le public jeûnera donc Rosh Chodesh, Chanouka ou à Purim. Divrei Rabban Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Afalpi she'amar Rabban Gamliel en mafsikin, bien que Rabban Gamliel ait dit qu'on n'arrête pas une série de jeûnes à cause de Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim, Modé Haya chez El Mashlimim, il est quand même d'accord avec ceux qui pensent qu'on arrête la série de jeûne sur ce point, qu'on ne complète pas le jeûne, mais on mange un petit peu avant la tombée de la nuit. Vechen betisha be'av shechal yod be'erev Shabbat. Il en est de même pour un tisha be'av qui tombe un vendredi. On ne complète pas le jeûne, on mangera un petit peu avant l'entrée du Shabbat. Betania, et il est enseigné dans une braïta. L'achar ptirato, nous lisons selon la note marginale chez Rabban Gamliel, après le décès de Rabban Gamliel, Nichnas Rabbi Yoshua lehafer et dvarav, Rabbi Yoshua est rentré pour annuler ses paroles. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al raglav, Rabbi Yochanan ben Nouri s'est tenu sur ses pieds, il s'est mis debout, et Amar, et il a dit, Chazé ana debatar recha gufa azil. Je vois que le corps suit la tête. Autrement dit, il faut suivre les chefs spirituels. Kol yamav shel Rabban Gamliel kabanu alacha kemoto. Toute la vie de Rabban Gamliel, nous avons fixé l'alacha comme lui. Achshav atam evakesh levatel devarav. Maintenant, tu veux annuler ses paroles. Yoshua, en shomim lecha. Yoshua, on ne veut pas t'écouter. Shekvar nikvea halacha ke Rabban Gamliel. Car la halacha a déjà été fixée comme Rabban Gamliel. Comme quoi, on ne complète pas un jeûne qui tombe un vendredi. Velo haya adam shirer badavar klum. Et personne n'a trouvé à redire là-dessus. En tout cas, nous voyons que la halakha a été fixée comme Rabban Gamliel et on ne complète pas un jeûne qui tombe le vendredi. Finalement, nous voyons que nous ne fixons pas la halakha comme Rabbi aussi. La Gemara répond, Bedoro shel Rabban Gamliel avoud ke Rabban Gamliel. Dans la génération de Rabban Gamliel, ils ont suivi l'opinion de Rabban Gamliel selon laquelle on ne complète pas un jeûne qui tombe un vendredi. Bedoro shel Rabbi aussi avoud ke Rabbi aussi. Mais dans la génération de Rabbi aussi, ils ont changé d'avis et ont suivi l'opinion de Rabbi aussi, selon laquelle un jeûne qui tombe un vendredi est complété. La Gemara demande, ou Bedorosh el Rabban Gamliel, avoud ke Rabban Gamliel, est-ce que dans la génération de Rabban Gamliel, a-t-on suivi l'opinion de Rabban Gamliel? Ve'atania, pourtant, il est enseigné dans une braïta. Nous lisons selon la note marginale, Amar Rabbi Lazar Berabi Tzadok, Ani Mibne Sinav Ben Binyamin. Je suis de la famille de Sinav Ben Binyamin. Cette famille faisait partie des familles qui se sont engagées à offrir du bois pour le Beth Amikdash, pour le temple. Lorsqu'ils offraient le bois, ils amenaient aussi un sacrifice et c'était un jour de réjouissance. Par tirage au sort, le jour fixé pour cette offrande de la famille de Sinav ben Binyamin est tombé le 10 Av. Pam achat chal tisha be'av shechal yod be'shabbat. Une fois le tisha be'av est tombé un Shabbat, vedachinuhu le'achar Shabbat, il a été donc repoussé au lendemain, le dimanche, Beit Aninubo, nous avons jeûné ce dimanche, Velo Ishlam Nuhu, mais nous n'avons pas complété le jeûne, Mipne Shiyom Tov Shelanu Haya, car ce jour, le 10 Av, est pour nous un jour de fête, comme nous l'avons expliqué. Nous pouvons déduire de là, Tama Adiyom Tov, c'est uniquement parce que le Tisha B'Av a été repoussé au 10 Av, et c'était donc un jour de fête pour cette famille, Ha Erev Yom Tov, mais lorsque le Tisha B'Av tombe la veille de ce jour de fête, comme d'habitude, Tisha B'Av tombe toujours la veille du 10 Av qui est leur jour de fête, Mashlimim, il devait compléter ce jeûne de Tisha B'Av. Nous voyons donc que lorsqu'un jeûne tombe la veille d'un jour de fête, il est complété. La Gemara répond, Amar Ravina, Shani Yom Tov Shel Divrehem. Un jour de fête fixé par les Chachamim est différent. C'est-à-dire, un jour de fête qui n'est pas un jour de fête Minatora est différent. Comme par exemple, le jour de fête des familles qui offrait le bois pour le temple. Et cela, mitor shemitanin bo shaot, puisqu'il est permis de jeûner quelques heures pendant ce jour de fête, comme nous le voyons que lorsque le Tisha B'Av a été repoussé au 10 Av, ils ont jeûné au moins une partie de la journée, mashlimim bo arviot, on complète le jeûne lorsqu'il tombe la veille de ce jour de fête. Car finalement, nous voyons qu'il n'y a pas d'interdiction de jeûner une partie de ce jour de fête. Shabbat, tandis qu'en ce qui concerne le Shabbat, ho'il ve'en mit'anin ba'asha'ot, puisqu'il est interdit d'en jeûner même quelques heures, en mashlim mimba arviot, on ne complète pas le jeûne lorsqu'il tombe la veille du Shabbat, car il est interdit de jeûner même une petite partie du Shabbat. Amar Rav Yosef, lo shami ali hashma'ata. Je n'ai jamais entendu cet enseignement. En effet, Rav Yosef était tombé malade. Une fois, il avait oublié tout ce qu'il avait appris. C'est Abaye qui souvent lui rappelait les enseignements. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Atamar Pnihalan, c'est toi qui nous as dit cet enseignement, Be'aha Amar Pnihalan. Et c'est justement sur la Mishnah suivante que tu nous as dit cet enseignement. Il s'agit de la Mishnah dans Maserhet Ta'anit Dat Tedvav Amudbet, que nous avons vu précédemment, En gozrin ta'anit ala tzibur berosh chodashim, etc. Il est interdit de fixer un jeûne public à Rosh Chodesh, Hanouka ou à Purim, mais s'ils ont commencé auparavant une série de jeûnes, on n'arrête pas cette série de jeûnes. Zamrin anala, et tu nous as dit là-dessus, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Zou divrei Rabbi Meir Shamar Mishum Rabban Gamliel. Ceci sont les paroles de Rabbi Meir au nom de Rabban Gamliel, que si on jeûne Rosh Chodesh, Hanouka ou à Purim, on ne complète pas le jeûne. Aval Chachamim Omrim, Mitane ou Mashlim. S'il faut jeûner à Rosh Chodesh, à Hanouka ou à Purim, il faut compléter le jeûne. Comme le précise le Tosfot, il y avait donc trois avis. Il y en a qui disaient que lorsqu'une série de jeûnes a débuté avant Rosh Chodesh, Hanouka ou à Purim, on arrête cette série de jeûnes parce qu'il est interdit de jeûner à Rosh Chodesh, à Hanouka ou à Purim. L'avis de Rabban Gamliel est, comme nous l'avons vu, qu'on n'arrête pas la série de jeûnes, mais on observe uniquement un jeûne partiel. Maintenant, nous voyons une troisième opinion, selon laquelle, non seulement on n'arrête pas la série de jeûnes, mais en plus, il faut compléter ces jeûnes. En Maïlav Akulhu, n'est-ce pas que lorsque les Chachamim disent que ces jeûnes doivent être complétés, c'est sur tous les cas, même sur le dernier cas mentionné dans la Mishnah du Tisha B'Av qui tombe un vendredi? La Gemara répond, l'eau, non, à Hanouka ou Purim. Cet enseignement des Chachamim ne concerne que Hanouka ou Purim, que s'il faut y jeûner, ces jeûnes sont complétés. Mais si un jeûne tombe un vendredi, celui-ci, peut-être, n'est pas complété. La Gemara dit, Hachina Ministabra, effectivement, il est logique d'interpréter ainsi l'enseignement de Rav Yehuda, donc qu'il ne parle pas d'un jeûne tombant le vendredi.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page Adaf Mem Alef Amud Bet. Dei salkada atach akulhu, car s'il te vient à l'esprit que les Chachamim parlent de tous les cas, même du jeûne qui tombe le vendredi, Haba emine Rabba me Rav Yehuda. Pourtant, Rabba a posé la question à Rav Yehuda, à savoir si un jeûne tombe à vendredi, est-ce qu'il doit être complété? Velo pachatle. Et Rav Yehuda ne lui a pas donné la réponse. Or, si Rav Yehuda avait une braïta ou un enseignement selon lequel les Chachamim pensent qu'un jeûne qui tombe le vendredi doit être complété, il aurait dû donner la réponse à Rabba. La Gemara demande, Velita Amer, et selon toi, qui veut prouver de là que les Chachamim rapportés par Rav Yehuda n'ont pas parlé d'un jeûne qui tombe le vendredi, Hadedarash Marzutra Mishmeh de Ravuna, en ce qui concerne ce que Marzutra a enseigné publiquement au nom de Rav Huna, Halacha Mitane Umashlim, l'Halacha est que si un jeûne tombe un vendredi, il faut le compléter. Nous voyons donc que Rav Huna pense qu'un jeûne qui tombe le vendredi doit être complété. Haba Amine, Rabba mi Rav Huna. Pourtant, Rabba a posé la question à Rav Huna, à savoir est-ce que le jeûne tombant un vendredi doit être complété, velo pachatle, et Rav Huna ne lui a pas donné la réponse. Forcément, il faut trouver une autre interprétation ou une autre réponse à cette question. Et là, plutôt, Ha Mekam Edeshama, lorsque Rav Huna n'a pas donné de réponse à Rabba, c'est avant qu'il avait entendu cet enseignement de Rav, Veha Lebatar Deshama, et par la suite, lorsqu'il a dit cet enseignement à Marzutra, c'est après qu'il l'a entendu de Rav. Hachanami, ici aussi, en ce qui concerne l'enseignement de Rav Yehuda, nous pouvons dire, Ha Mekam Edeshama, là où il n'a pas donné la réponse à Rabba, c'est avant qu'il ait entendu cet enseignement de Rav. Ha Lebatar Deshama, mais par la suite, lorsqu'il a dit cet enseignement au sujet de l'opinion de Chachamim, c'est après qu'il l'a entendu de Rav. Finalement, il n'y a pas de contradiction, car avant d'avoir entendu de Rav qu'un jeûne qui tombe à vendredi doit être complété, ni Rav Yehuda ni Rav Huna ne connaissaient la réponse. Darash Marzutra Mishmeh de Rav Huna. Marzutra a enseigné publiquement au nom de Rav Huna, Halacha, la halacha est que lorsqu'un jeûne tombe le vendredi, mitanin ou mashlimim, il faut jeûner et compléter ce jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Hadran alach bakol mervin, nous avons fini l'étude du troisième perek de Maseret Eruvin. Nous commençons l'étude du quatrième chapitre de Maseret Eruvin. Nous y verrons essentiellement les lois d'une personne qui sort volontairement ou non du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu d'habitation. Nous verrons aussi dans quelle mesure il faut placer de la nourriture à l'endroit où la personne veut établir sa résidence du Shabbat, autour de laquelle il aura un périmètre de 2000 coudées, c'est le Eruv Troumin que nous avons vu dans le chapitre précédent, et dans quelle mesure il peut se contenter de se rendre à cet endroit pour y rester jusqu'à la tombée de la nuit, ou bien même il peut se contenter d'une simple décision d'établir sa résidence dans tel endroit, même sans s'y rendre avant la tombée de la nuit. En Nouvelle Mishnah, « Mi shehotzi'uhu nochrim o ruachra » celui qu'on fait sortir du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence des goyim ou un accès de folie parce qu'il a été habité par un démon, il n'est donc pas sorti volontairement du périmètre des 2000 coudées autour de son lieu de résidence. « Enlo elar ba'amot » il n'a qu'un périmètre de 4 coudées à l'endroit où il se trouve. Nous verrons plus loin, daf memchet, quelle est la taille exacte de ce périmètre. « Herziruhu » si les goyim qui l'ont fait sortir l'ont ramené dans le périmètre de 2000 coudées qu'il avait à l'origine à l'entrée du Shabbat, que ilu lo yatsa, il est considéré comme une personne qui n'est jamais sortie du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu d'habitation. Il peut donc circuler librement dans ce périmètre qu'il avait à l'origine à l'entrée du Shabbat. Holichuhu le iracheret, si les goyim qui l'ont fait sortir de son lieu de résidence l'ont amené dans une autre ville entourée de murailles ou de clôtures, ou bien natnuhu bedir obesahar, ou bien si les goyim qui l'ont fait sortir l'ont placé dans un enclos provisoire pour animaux lorsqu'on veut fertiliser un terrain, ou bien dans un enclos fixe pour animaux, il a été donc placé dans une enceinte entourée de clôtures. Rabban Gamliel ve Rabbi Lazar ben Azaria omrim mehalechet kula, il pourra se déplacer dans tout cet enclos, et cela parce que nous considérons cet enclos comme étant une enceinte d'une surface de 4 coudées. Il lui est donc permis de se déplacer dans toute cette enceinte ou dans toute la ville. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Omrim, En lo ela arba amot, il n'a qu'un périmètre de 4 coudées. Autrement dit, le fait d'avoir été placé dans un endroit clôturé ne lui accorde aucun droit. Il ne pourra se déplacer donc que dans un périmètre de 4 coudées. Maase shebaou miflandresin, il y a une histoire où les 4 sages que nous avons mentionnés plus haut venaient d'un endroit qui s'appelait Flandresin, Vehifligas Finatan Bayam, et leur bateau a quitté le port pendant le Shabbat. Ils avaient donc établi leur résidence au port, à l'entrée du Shabbat, et maintenant, pendant Shabbat, ils se sont éloignés du périmètre de 2000 coudées autour du lieu de résidence qu'ils avaient à l'entrée du Shabbat. Rabban Gamliel et Rabbi Lazar ben Azaria halchou et kula, ils se déplaçaient dans tout le bateau, parce que bien qu'ils aient quitté le périmètre de 2000 coudées autour de leur lieu de résidence d'origine, mais ils se trouvaient dans un endroit clôturé qui est le bateau. Selon eux, ils avaient donc le droit de se déplacer dans tout le bateau. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Lozazoum et Arba Amot n'ont pas bougé du périmètre de 4 coudées à l'endroit où ils se trouvaient à l'entrée du Shabbat, Sheratsu lehachmir alatzman, car ils voulaient être plus stricts avec eux-mêmes. La Gemara expliquera. Pamachat lo nichnesu lenamal ad shechashecha. Une fois, ces 4 sages ne sont pas arrivés au port jusqu'à la tombée de la nuit à l'entrée du Shabbat. Amroulo le Rabban Gamliel ma anou le red, a-t-on le droit de descendre du bateau pendant Shabbat? Amar lahem, Rabban Gamliel leur a répondu, mutari matem, vous avez le droit de descendre du bateau pendant le Shabbat. Shekvar haiti mistakel, car je regardais la terre avec une longue vue avant l'entrée du Shabbat. Vehayinu betor hatrum ad shelo chashecha, et j'ai pu établir que nous étions dans un périmètre de 2000 coudées autour de la ville dans laquelle nous sommes arrivés avant la tombée de la nuit. Comme l'explique le Tosfot, puisqu'ils avaient l'intention de se rendre dans cette ville et ils comptaient sur la sagesse de Rabban Gamliel pour pouvoir déterminer s'ils étaient dans un périmètre de 2000 coudées autour de la ville avant l'entrée du Shabbat, lorsqu'il s'était avéré qu'ils étaient effectivement à moins de 2000 coudées de la ville, ils ont la possibilité de décider d'établir leur résidence dans la ville, et ainsi, ils auraient le droit de se rendre dans la ville et de se déplacer dans un périmètre de 2000 coudées autour de la ville. Il est possible de le faire, puisqu'ils n'ont pas de résidence fixe, étant donné qu'ils sont en chemin. Une simple décision suffit pour établir le lieu de résidence, à la condition qu'ils ne soient pas éloignés d'une distance de plus de 2000 coudées de l'endroit où ils se trouvent à l'entrée du Shabbat. Comme nous le verrons à la fin du chapitre. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Il y a trois choses ou trois situations qui font agir l'homme contre son gré et contre la volonté de son créateur. Elouhen, voici ces trois choses. Ovde Kochavim, c'est les goyim qui torturent le Israël et le font agir contre son gré et contre la volonté d'Hachem. Veruach Ra, est un mauvais esprit qui habite l'homme, à la suite de quoi il peut avoir des accès de folie et aussi agir contre la volonté d'Hachem. Vedigduke Aniyut, est la pauvreté extrême. Cette situation peut faire perdre la raison à l'homme et lui faire agir contre la volonté d'Hachem. La Gemara demande le Main Afkamina, que nous sort-il de cet enseignement? À quoi cela nous sert de le savoir? La Gemara répond, le Miv et Rachame Alayhu, c'est pour implorer la miséricorde divine pour être épargné de telles situations. La suite de la Braïta, Shlosha Enroin Pene Geinam. Il y a trois personnes qui, à cause des souffrances qu'ils ont endurées, ne verront pas l'enfer. Elouhen, voici ces trois personnes. Digduke Aniyut, c'est ceux qui ont souffert de la pauvreté extrême. Vechole Me'ain, et ceux qui ont souffert d'une maladie des intestins. Veharashut, et ceux qui ont été poursuivis par des créanciers. Le fait d'avoir enduré ces souffrances dans ce monde ici-bas leur vaudra d'être épargnés des souffrances de l'enfer. Veyesh Omrim, il y en a qui disent, Af Mishi Yeshlo Isharaa, même celui qui a une mauvaise femme, celui-ci sera aussi épargné de l'enfer. De Idar, la Gemara dit, et l'autre, le premier auteur de la Braïta, qui ne mentionne pas ce cas, cette situation, c'est parce que Isharaa Mitzvah Legarsha, celui qui a une mauvaise femme, a un commandement positif de la divorcer. De Idar, et l'autre, c'est-à-dire le deuxième avis de la Braïta qui pense que celui qui a une mauvaise femme sera épargné des souffrances de l'enfer, c'est parce que Zimnin de Ktubata Meruba, des fois, il y a des situations où l'engagement de la Ktuba qu'il s'est engagé à payer s'il l'a divorcé est très grand, de manière à ce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Inami, ou bien Itleh Banim Mina, ou bien il y a des situations où il a des enfants de cette femme, Velo Matsime Gareshla, et à cause de cela, il ne peut pas la divorcer. Donc c'est pour ça que le deuxième avis dans la Braïta compte celui qui a une mauvaise femme parmi ceux qui sont épargnés des souffrances de l'enfer. La Gemara demande le Maïnaf Kamina, que nous sort-il de là? À quoi cela nous sert de le savoir? La Gemara répond, le Kiboulé Me'ahaba, celui qui se trouve dans telle situation, il doit les accepter avec amour, car ses souffrances expient ses péchés et lui épargnent les souffrances de l'enfer. Shlosha Metin Keshehem Mesaprim, il y en a trois qui meurent même lorsqu'ils sont en train de parler, c'est-à-dire ils sont en grand danger sans en avoir l'air, car ils meurent même lorsqu'ils ont l'air d'avoir beaucoup de vitalité parce qu'ils parlent. Ve'eluhen, et voici ces trois situations. Choli me'ain, ceux qui sont atteints d'une maladie des intestins. Ve'chaya, et une femme qui accouche. Ve'hidrokan, et une personne qui est atteinte d'une maladie de la bouche qui atteint ensuite l'estomac ou les intestins. Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce qui nous sort de cet enseignement? À quoi cela nous sert de le savoir? L'Agma répond, les Mishmouche Behu Zebadta, c'est pour leur préparer des linceuls. C'est-à-dire, comme explique le Yuni Yaakov, ces personnes doivent se préparer moralement à une mort subite par la repentance. Amar Rav Nachman Amar Shmuel Yatsa Ledaat, celui qui est sorti volontairement du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, En Loela Arba Amot, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. La Gemara demande, Pshita, cette halakha est évidente. Hashta mi shehotzi uhu nochim, si déjà dans le cas enseigné par la Mishnah d'une personne que des goyim ont fait sortir de son périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, enlo el arba amot, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Yatsa le dat mi vaya, a-t-on besoin de nous dire que s'il est sorti volontairement de ce périmètre, qu'il n'a qu'un périmètre de 4 coudées? Il me répond, et là, plutôt, c'est cela que Rav Nachman a voulu dire au nom de Shmuel. Celui que des goyim ont fait sortir du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, Chazar le Da'at, et il est revenu volontairement dans ce périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, En Lo'ela Arba Amot, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Il ne pourra pas se déplacer dans le périmètre de 2000 coudées qu'il avait à l'origine à l'entrée du Shabbat. La Gemara demande, Hanami Tanina, ceci est enseigné aussi clairement dans notre Mishnah. Hirziruhu Nochrim Keilu Lo Yatsa, celui que des goyim ont ramené dans le périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, est considéré comme une personne qui n'est jamais sortie de ce périmètre. Il peut donc se déplacer librement dans ce périmètre. Nous pouvons dire de là, c'est uniquement si ce sont des goïms qui l'ont ramené dans ce périmètre que nous le considérons comme s'il n'était jamais sorti. Mais dans le cas où après que des goïms l'ont fait sortir de ce périmètre, il est revenu volontairement dans le périmètre en question, il n'a qu'un périmètre de 4 coudées. Finalement, Rav Nachman n'a pas besoin de nous enseigner cette halakha. Rav répond, et là, Emma, plutôt, c'est cela que Rav Nachman a voulu dire au nom de Shmuel. Yatsa le da'at veherziruhu nochim, s'il est sorti volontairement du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, et ce sont des goyim qui l'ont ramené dans ce périmètre, en lo'ela arba amot, il n'a qu'un périmètre de 4 coudées. La Gemara demande, Hanami Tanina, ceci est enseigné aussi clairement dans notre Mishnah. Hotsi'uhu veherziruhu keilu lo yatsa. Si des goyim l'ont fait sortir de son périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence et ils l'ont ramené, il est considéré comme une personne qui n'est jamais sortie de ce périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence. Nous pouvons déduire, Hotsi'uhu veherziruhu, c'est uniquement dans le cas où des goyim l'ont fait sortir de ce périmètre et l'ont ramené, hu de keilu lo yatsa. C'est uniquement dans ce cas que nous le considérons comme s'il n'était jamais sorti de ce périmètre. Aval yatsa ledat, mais s'il était sorti volontairement de ce périmètre, l'eau, non. Dans ce cas, même si c'était des goïms qui l'ont ramené dans le périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, il n'aurait le droit de se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Finalement, que nous a appris de nouveau Rav Nachman au nom de Shmuel? L'Agma répond, en fait, on ne peut pas le déduire de la Mishnah. Parce que Mahou de Tema, on aurait pu penser dire l'Itzadim Katane, que les deux cas enseignés par la Mishnah sont l'un à côté de l'autre. Autrement dit, le deuxième cas où les goyim l'ont ramené à son périmètre d'origine n'est pas la suite du premier cas, mais c'est un autre cas. Et la Mishnah serait donc interprétée de la manière suivante. Mishehotzi uhu nochim, celui que des goyim ont fait sortir de son périmètre d'origine, vechazar le da'at, il est retourné dans ce périmètre volontairement. En lo'ela arba amot, il n'a qu'un périmètre de 4 coudées autour de l'endroit où il est arrivé. Autrement dit, soit dans la situation où il se trouve à l'extérieur de son périmètre d'origine parce que des goïms l'ont fait sortir, soit même s'il est retourné dans son périmètre d'origine volontairement, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Mais le deuxième cas de la Mishnah, aval yatsa ledat, mais s'il est sorti volontairement de son périmètre, veherziruhu nochrim, et des goyim l'ont ramené dans ce périmètre, keilu lo yatsa, nous le considérons comme s'il n'était jamais sorti de son périmètre. Il pourra donc se déplacer librement dans le périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence. Kamash ma'alan, c'est pour cela que Rav Nachman a eu besoin de nous enseigner cela, que dans le cas où il est sorti volontairement, même si des goyim l'ont ramené chez lui, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Finalement donc, en conclusion, les deux cas de la Mishnah sont des cas qui se suivent, et c'est uniquement si des goïms l'ont fait sortir de son périmètre d'origine et ils l'ont ramené, qu'il pourra se déplacer librement dans le périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence. Mais s'il est sorti volontairement ou s'il est rentré volontairement, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Ba'ou mineh meraba. Ils ont posé la question suivante à Rabba concernant celui que des goïms ont fait sortir de son périmètre d'origine, et par conséquent, il ne peut se déplacer que dans un périmètre de 4 coudées. Hutzrach le nekavav mahu. S'il a besoin de faire ses besoins, qu'en est-il? Parce que s'il le faisait sur place, il serait incommodé toute la journée par les odeurs. Donc la question se pose, a-t-il le droit de quitter ce périmètre de 4 coudées pour s'éloigner suffisamment de manière à ne pas être incommodé par les odeurs lorsqu'il retournerait à cet endroit? Amar Lahem, Rabba leur a répondu à ceux qui ont posé cette question, Gadol Kvod Haberiot, l'importance de la dignité des créatures, donc des hommes, est tellement grande, chez Doche et Lota Seche Batora, car elle a la possibilité de repousser un commandement négatif de la Torah. Il s'agit du commandement négatif exprimé par le Pasuk dans Dvarim Yudzain, qui dit Lota Sur Mina Dvarim, etc. Ne te détourne pas des paroles que t'enseigneront le tribunal suprême, ni à droite ni à gauche. De là nous apprenons qu'il est interdit de dévier des enseignements des Chachamim. L'importance de la dignité humaine est tellement grande qu'elle repousse ce commandement négatif. Par conséquent, bien qu'il lui soit interdit, Midirabanan, de se déplacer hors d'un périmètre de 4 coudées, mais pour préserver sa dignité, il lui sera permis de quitter ce périmètre, suffisamment pour ne pas être incommodé par les odeurs, et y retourner ensuite. Amre Nehardeh, les sages de Nehardeh ont dit, Ipekeahu, si cet homme est intelligent, lorsqu'il s'éloigne de ce périmètre de 4 coudées pour faire ses besoins, Ayil Letruma, il n'a qu'à aller en direction du périmètre des 2000 coudées autour de son lieu de résidence, et Kivan de Al, et s'il se trouve qu'il est rentré dans ce périmètre, nous considérons qu'il est rentré, et il peut donc circuler librement dans ce périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, car finalement, ce n'est pas volontairement qu'il a quitté le périmètre de 4 coudées auquel il était confiné. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Aleph. Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Mem Bet. Nous commençons Daf Mem Aleph Amud Bet à la 4e ligne du bas de la page. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah que celui qui est sorti du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, soit volontairement, soit même de force par des goïms par exemple, est astreint à un périmètre de 4 coudées qu'il n'a pas le droit de franchir. S'il retourne dans le périmètre dans lequel il avait le droit de circuler à l'origine, s'il le fait volontairement, il n'a pas le droit de bouger de cet endroit. Il est donc astreint aussi à un périmètre de 4 coudées. Mais s'il est sorti de force par des goïms par exemple, et ce sont des goïms qui l'ont ramené dans le périmètre dans lequel il avait le droit de circuler à l'origine, nous le considérons comme une personne qui n'est jamais sortie de son périmètre. Il peut donc circuler librement dans ce périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence. D'autre part, les objets ou les aliments sont astreints à la limite de leur propriétaire. Par conséquent, même une personne qui peut circuler en dehors de cette limite, par exemple par le moyen d'un hérouf, il n'a cependant pas le droit de prendre avec lui des objets qui appartiennent à une autre personne en dehors du territoire dans lequel il a le droit de se déplacer. En Gemara dit, Amar Rav Papa, Perot Sheyatzu Chutz Letrum, des fruits qui sont sortis du territoire dans lequel leur propriétaire avait le droit de circuler, Vechazru, puis ils ont été ramenés dans ce territoire, à Filou Bemezid, même si on les a fait sortir et on les a ramenés volontairement, donc sachant que c'est une interdiction, lohifsidu et mekoman, ils n'ont pas perdu leur territoire, ils peuvent être donc transportés dans tout le territoire dans lequel leur propriétaire peut circuler, maitama, pourquoi, anusin ninhu, la Gemara répond, car ces fruits sont à l'état de contrainte. En effet, puisque les fruits ne peuvent pas se déplacer d'eux-mêmes, on ne peut pas considérer qu'ils sont sortis volontairement de leur territoire, ils ne seront donc pas astreints à un périmètre de 4 coudées. Par conséquent, si c'est un Yom Tov où il est permis de porter, ils peuvent être déplacés dans tout leur territoire. Si c'est Shabbat, où il est interdit de porter, ils peuvent être quand même être consommés sur place. Et Tivé, Rav Yosef Bar Shmaya, le Rav Papa, Rav Yosef, fils de Shmaya, a opposé à Rav Papa la braïta suivante. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov omrim, le Olam Asurim, ces fruits qui ont été déplacés en dehors du territoire de leur propriétaire, sont toujours interdits à la consommation et à être transportés, Achiarzeru Limkoman Shogigin, jusqu'à ce qu'ils soient ramenés sur place dans leur territoire d'origine par inadvertance. La Gemara constate, Beshogeg, s'ils ont été ramenés sur place par inadvertance in, oui, ils pourront être transportés, Bemezid, mais s'ils ont été ramenés sur place volontairement, l'eau, non, ces fruits seront interdits à la consommation. Il sera interdit aussi de les déplacer en dehors d'un périmètre de 4 coudées, contrairement à l'enseignement de Rav Papa. L'Agma répond, Tanaïhi, il y a une discussion entre des Tanaïm à ce sujet. Des Tania, car il est enseigné dans une Braïta. Perot Sheyatzu Chutz Latrum, des fruits qui sont sortis en dehors du territoire dans lequel leur propriétaire peut circuler. Beshogeg, si on les a fait sortir par inadvertance, Yahlou, ils sont permis à la consommation. Cependant, il est interdit de les déplacer, car ils se trouvent à l'extérieur du territoire où leur propriétaire peut circuler. Bemezid, mais si on les a fait sortir de leur territoire volontairement, lo yachlou, ils seront interdits à la consommation.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.